Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
20h et presque une minute sur Radio Campus Paris, tout le monde s'installe tranquillement dans ce studio, c'est l'heure du lobby, donc le rendez-vous queer radiophonique, c'est parti Suzanne.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut, yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils
sont dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, au sommaire ce soir. Un mot qui s'affiche dans vos librairies depuis la semaine dernière, un mot sorcière, comme nous avait dit Alice Coffin dans cette même émission, une insulte mille fois entendue devenue un stigmate joyeusement retourné avant que les réseaux sociaux ne se décident de le censurer aveuglément. Après Sororité et PD, la collection féministe des éditions Point récidive et nous présente leur dernier né, Gwyn, comme est dans le lobby ce soir. Nous recevons deux des autrices qui signent un texte de cet ouvrage, deux témoignages de Gwyn imparfaites qui tentent bon gré mal gré de tracer leurs itinéraires lesbiens loin des injonctions, mêlent le corps et Amandine Aguiche sont avec nous. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, merci bonsoir. Beaucoup de nous recevoir.
Avec grand plaisir, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente l'équipe qui va nous accompagner ce soir jusqu'à 21h et elles sont nombreux. Je commence par celui qui a lu Gwyn avec moi. Salut Mal.
Salut Colin.
Alors moi, en tant que PD, je dois dire que quelque part, ce livre m'a donné un peu envie d'être Gwyn. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé?
Bah oui, j'ai carrément envie de rechanger de sexe et de voir la vie côté Gwyn, finalement.
Oh là là, mais ça a l'air quand même compliqué, tout ça. Autour de la table également, c'est le retour de notre chroniqueuse drama. Salut Antonella.
Bonjour, c'est moi.
Toujours du drama aujourd'hui, je crois.
Bien sûr, je vous raconte ma vie comme d'hab.
Oui, bah voilà. Et puis à drama, drama et demi au moins. Salut Chat.
Salut Colin.
Bon, je crois qu'il n'est pas tout à fait question de drama néanmoins ce soir.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Bon, de quoi quelques mots peut-être.
Bon, on va parler des States.
Bah oui, bien sûr, je m'en doutais. À tout à l'heure, à 20h10, on parle aussi des États-Unis. Une semaine après la large victoire du candidat républicain, la ligne d'appel du Trevor Project, association américaine de prévention contre le suicide chez les jeunes LGBT+, est plus sollicitée que jamais, plus 700% d'appels en quelques jours. Nous serons à New York pour en parler. Et puis à 20h45, l'agenda. Salut Léa.
Salut Colin.
Bienvenue, c'est une nouvelle voix qui nous rejoint ce soir dans le lobby. On parle d'un festival de cinéma ce soir, je crois.
Tout à fait, on parle de Chéri Chéri, la 30e édition qui aura lieu fin novembre.
À partir du 15 novembre même, en compagnie de Grégory Tillac, son directeur artistique. À tout à l'heure, Eléa. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et donc Maëlle Lecor et Amandine Aguiche sont avec nous ce soir pour parler de Gwyn qui vient de sortir aux éditions Point Mal.
Et oui, à l'équipe du lobby, on a eu la chance de lire cet ouvrage en exclusivité finalement. Et finalement, comment vous est venu en fait ce projet de recueil de textes lesbiens?
Eh bien, tout simplement, comme l'a dit Colin tout à l'heure, il y a eu Sororité et PD qui est sorti. PD, c'était il y a un an et demi, je crois que c'était en mai 2023. L'idée, c'était de faire le pendant lesbien de PD, tout simplement. Voilà, moi, je connais très bien Anthony Vincent parce qu'on a travaillé ensemble chez Mademoiselle.
Donc, et, un des auteurs de PD.
Voilà, ouais. Tout à fait, qui fait partie du collectif PD. Et il m'avait parlé, justement, qu'il travaillait sur ce projet avec plusieurs auteurs, de ce bouquin qui se préparait, qui s'appelait PD. Je trouvais l'idée absolument, absolument géniale. Et lui m'avait dit de manière très subtile, ah, ce serait trop bien de faire le même version lesbienne, de faire un livre qui s'appellerait Gwyn. J'ai dit, ah oui, ce serait super. Puis il me l'a dit deux, trois fois avant que ça percute un peu dans ma tête, de me dire, ah, mais c'est vrai. Et puis je pourrais en faire partie peut-être. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, autant contacter Point pour voir si jamais il y a une envie de
peut-être.
Faire...
Peut-être.
Qui sait, hein, on tente, qui ne tente rien à rien. Et du coup, bah, voilà, j'ai contacté Point. Et sauf qu'au même moment, mais ça s'est joué vraiment, c'est un très heureux hasard, ouais. Au même moment, Marie Kirchen, donc avec qui j'ai coordonné Gwyn, avait eu la même idée et avait aussi tenté sa chance en disant « bon, allez, ils y ont sûrement déjà pensé ». Et on a envoyé notre mail chacune, toutes les deux, sans se concerter.
Génial.
Mais un
le
peu au même
jour, à la même heure.
Franchement, ça se joue à 48 heures près, je crois. Donc vraiment, c'est assez hasardeux, mais voilà, c'est un bon hasard.
Sacrée histoire.
Et juste derrière, bah voilà, la directrice éditoriale à l'époque qui a dirigé la collection Point Féministe nous contacte et nous dit ouais, grave, faisons-le. Et donc du coup voilà, on a commencé à lancer le projet, à réfléchir et à dire ok, qui est-ce qu'on verrait bien là-dedans.
Et voilà, c'est ma question effectivement, voilà. Mourmel, vous co-dirigez cet ouvrage avec Marie Kirchen. Et voilà, comment est-ce que vous avez constitué le casting de Gwyn?
C'est pas facile parce qu'on avait plein d'envies, il y avait plein de noms qui nous venaient en tête. Donc voilà, il fallait faire des choix, se dire ok, à qui on a envie de donner la parole, pour qui serait justement, qui a des choses à dire sur ces identités Gwyn. Et il y a plein de auteuristes, d'artistes, de militantes qui ont plein de choses à dire là-dessus. Donc voilà, on a fait un petit peu. On arrive avec une très très longue liste et puis on a affiné au fur et à mesure. Puis voilà, on est arrivé avec ce casting assez merveilleux qui porte ce bouquin au final, parce que voilà, on voulait on a été chercher des personnes qui écrivent un peu différemment, qui avaient soit déjà abordé ces sujets-là, soit qui l'avaient pas encore fait, mais dont on savait qu'elles avaient quelque chose à dire sur ces identités-là, et justement aussi avoir des propos assez différents. Voilà, qu'est-ce que c'est les trajectoires Gwyn aujourd'hui, et pas de parler encore des questions, de parler encore de coming out, de parler de lesbophobie, mais justement aller dans des choses un petit peu plus profondes, un petit peu plus qu'on a peut-être moins l'habitude de lire, et que ce soit à la fois un truc par des Gwyn, pour les Gwyn, mais aussi que ça parle aussi au grand public. C'est aussi tout l'intérêt de sortir ça chez Point, qui est une maison d'édition qui va diffuser à une très grande échelle.
Et comment vous avez choisi vos sujets, vous deux, Amandine et Maëlle?
Tu veux commencer, Amandine?
Alors, en fait, on avait une liberté totale sur le choix des sujets. De mon côté, j'ai reçu un jour un message sur Insta de Maëlle qui me demande mon adresse mail. Je donne mon adresse mail et puis j'ai pas de nouvelles. Et puis au bout d'un moment, je reçois l'email de « Coucou, ça te tente de rejoindre Gwyn ?» Donc oui, évidemment. Et comment on a choisi nos sujets? En fait, chacune de son côté. Et puis on a eu une sorte de réunion sur Zoom ou je sais pas quoi. Pour aborder le sujet des textes et éviter d'avoir des doublons. Mais sinon, on a choisi chacune de son côté.
Ouais, et la question du coup de la lutte contre le classisme, la lutte des classes, on va pouvoir en reparler avec vous tout à l'heure, Amandine Aguil, ça s'est assez rapidement imposé, j'imagine, quand vous avez commencé à écrire.
Oui, parce que c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis longtemps et qui est quasiment jamais porté dans la commu.
Ouais.
Un peu dans PD, dans deux textes.
Avec Adrien Nazelli notamment et Nantaine Traoré, je crois.
Moi, j'aurais plutôt dit Florent.
Ah, pardon, oui. oui, effectivement, pardon, je dis n'importe quoi, oui.
donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet-là.
Et vous, Maëlle Lecor, du coup?
J'avais envie de parler de la contrainte à l'hétérosexualité, donc un concept développé par Adrien Rich, mais voilà, je voulais... pas faire de la théorie parce que c'est pas mon rôle, moi là-bas je suis journaliste, mais je voulais justement utiliser cette possibilité d'un texte d'Anguine pour justement me plonger dans mon enfance, mon adolescence et essayer de déceler tout ce qu'il y avait un petit peu à la base et qui m'avait empêché de m'affirmer lesbienne. C'est pas tant de raconter comment je suis devenue lesbienne, mais tout ce qui m'a empêché avant ça.
De le devenir plus tôt presque.
Alors plus tôt, je sais pas si je me le souhaite, mais en tout cas, quels sont les freins qu'on a quand on grandit à hétérolande, un peu comme tout le monde en fait, qui empêchent de se découvrir, de s'affirmer, même de se dire en fait à soi-même qu'on est lesbienne, qu'on est Gwyn. Et voilà, j'avais envie de creuser ça d'un point de vue assez personnel en fait.
Et ça donne un texte qui s'appelle Bancal, on va en reparler tout à l'heure. Je signale que parmi les autres plumes qui signent un texte de ce livre, on a la journaliste donc Marie Kirchen, on en a parlé, la poétesse franco-algérienne Marianne Alkamar, la traductrice Noémie Grunenwald, l'autrice Marcia Burnet, autrice des Orageuses notamment, Noé Enger, chercheur et artiste handicapé, et l'autrice et compositrice Erika Nomeni. Vous avez fait une soirée de lancement le 7 novembre dernier, comment ça s'est passé?
C'était super. Je sais pas trop quoi en dire d'autre. C'est forcément hyper émouvant d'avoir porté entre nos petites mains chacun de nos textes, de les avoir réunis, de s'être relus. Et là maintenant ça sort et de le voir entre les mains des Gwyn qui sont venus nous voir, et pas que des Gwyn d'ailleurs. Il y avait ma maman qui est venue par exemple, qui a acheté son petit exemplaire, et voilà, moi j'étais hyper fière de pouvoir partager ça à la fois avec la commu, mais aussi que ça sorte un petit peu et que ça fasse réfléchir éventuellement.
L'une comme l'autre, est-ce que vous avez déjà eu des retours sur vos textes qui ont donc été publiés le 8 novembre dernier?
Ça commence un peu sur Instagram, et c'est... agréable en fait de voir le texte vivre et vraiment vivre et trouver son public.
Vous êtes d'accord, Amel?
Ouais, complètement. Moi, j'ai eu un petit message ce matin sur Instagram, absolument adorable, d'une lectrice qui l'avait acheté et qui s'était dit je vais le mettre dans un coin, quand même. Je vais pas le lire tout de suite parce qu'en fait, ça va être un peu. Elle se sentait presque pas légitime, en fait. Et du coup, elle me dit elle le feuillette et elle tombe sur une des phrases de mon texte. Et
en fait, ça l'a. Vous n'êtes pas légitime.
Voilà, il y avait ce truc est-ce que je suis assez lesbienne pour me dire lesbienne? Enfin, c'est une des phrases de mon texte. Et du coup, elle a bloqué sur cette phrase et elle a enchaîné les lectures et elle m'a dit mais en fait je suis pas toute seule et waouh, ok, bah d'accord, ça fait écho en fait, de voir que déjà des petits textes comme ça font écho et bah je pense que voilà, recevoir des messages les unes les autres c'est hyper touchant.
Enfin, et non, vous n'êtes pas toute seule, chère Gwyn, surtout si vous écoutez le lobby ce soir sur Radio Campus Paris, puisque nous sommes avec Maëlle Lecor et Amandine Agitch, qui sont avec nous jusqu'à 21h pour évoquer Gwyn, ouvrage collectif à mettre donc entre toutes les mains et qui vient de sortir aux éditions Point. On continue à parler dans un instant de ce livre, mais à 20h11, on passe à l'actualité du mois.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
In terms of the LGBT community, a lot of people have reached out.
De très nombreuses personnes LGBT+ m'ont contacté. Elles sont très inquiètes. Elles se demandent ce que vont devenir leurs droits. Elles se demandent ce qui va se passer pour elles. Et surtout pour la communauté trans qui est particulièrement anxieuse en ce moment.
La voix de l'élu démocrate Brianna Titon, élu démocrate donc du Colorado, l'une des rares personnalités politiques trans aux États-Unis, où nous sommes ce soir aux côtés de la communauté queer particulièrement éprouvée, alors que Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche. Une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour les personnes LGBT+ états-uniennes, après une campagne très transphobe menée par donc le futur président. Trump a promis d'interdire donc toute discussion sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre à l'école. Il veut aussi, je cite, protéger les sports féminins en excluant donc les athlètes transgenres. Son colistier J.D. Vance n'est pas en reste puisqu'il a déjà proposé des lois punissant les médecins soignant les jeunes trans. Bonsoir Annelie Victoire.
Bonsoir.
Journaliste et auteur notamment de Rien à perdre qui est sorti en 2023. Tu es actuellement installée à New York où l'après-midi commence donc seulement. New York, ville acquise aux démocrates bien sûr. C'est quoi l'ambiance depuis une semaine là-bas?
En fait, c'est hyper dur à dire parce que New York, comme tu viens de le dire, c'est une ville et même un état qui est bleu, donc démocrate depuis très longtemps. C'est vraiment une ville progressiste pour plein de raisons historiques, culturelles. Et ici, la vie suit un peu son cours. Ils ont beaucoup moins la culture quand même de la manif que nous, on a en France. C'est-à-dire que nous, ça serait passé un truc comme ça, il y aurait eu grève, manif, rassemblement à République. Enfin voilà, on connaît, mais ici, il y a beaucoup moins ce truc de sortir dans la rue, se rassembler, etc. Peut-être que ça l'était plus en 2016 parce que c'était vraiment quand même un très gros choc la première élection, mais là je crois que le espèce de comeback de Trump, on est plus sur un espèce de choc un peu résigné quoi.
Est-ce que tu sens que cette résignation elle touche aussi les personnes queer que peut-être qui t'entourent, les militants que tu as pu rencontrer? Est-ce que c'est aussi une résignation qui domine chez eux?
Je dirais que c'est plus, moi j'ai plusieurs cours à Columbia où je suis un cursus en histoire où j'ai des profs queer et vraiment des cours très orientés avec des sujets queer. Donc là l'ambiance, notamment hier quand j'avais cours, c'était plutôt c'est un choc, on va beaucoup souffrir, on le sait. Prenons soin des uns des autres, restons solidaires les uns des autres. Et aussi, on nous a dit, faites les démarches que vous avez à faire maintenant.
C'est-à-dire, effectivement, donc, tout ce qui est mettre de côté des ampoules de testostérone, etc., c'est voilà. Ça
voilà, si on a des papiers à faire changer légalement, de prénom, d'identité civile, etc., pour les personnes racisées, aussi migrantes, s'il y a des demandes en cours de naturalisation, etc., de rapprochement de famille, enfin, c'est un peu les derniers mois pour le faire, puisqu'on aussi, on le rappelle, le président a été élu en novembre, mais la prise de fonction, c'est en fin janvier. Donc là, pour l'instant, c'est encore
Biden. Donc c'est la course contre la montre, là, pendant 2 mois, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas ce truc, moi, j'ai l'impression de se retrouver en association, de monter des trucs collectifs. Il y a beaucoup moins cette culture très syndicale ou très associative ici, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que là, Trump, on a l'impression qu'il y a peu de contre-pouvoirs. Il a la Cour suprême qui lui est largement acquise, avec des juges très, très, on dirait en France, d'extrême droite. Il y a notamment le juge Clarence Thomas qui ne cache pas sa volonté de revenir sur des acquis comme le mariage pour tous. Le Sénat et la Chambre des représentants lui sont acquis également. Est-ce qu'il y a quand même des associations, des militants qui arrivent à se faire entendre, qui pourraient représenter une forme de contre-pouvoir pour les 4 prochaines années, selon toi, Nelly Victoire?
Alors déjà, il faut se dire que le Congrès, donc la Chambre des représentants, c'est que pour 2 ans. Donc c'est-à-dire que dans 2 ans, il y aura des nouvelles élections, il y aura aussi des nouvelles sénatoriales. Donc les deux chambres ne sont pas fixes pour 2 ans, ne sont pas acquises aux Républicains pour 4 ans, c'est que pour 2 ans pour le moment. Donc déjà, ça laisse un petit peu de marge au Parti démocrate et, de manière plus globale, au camp de gauche et au progressiste pour s'organiser et se dire que ça ne va pas non plus durer 4 ans. Il est très probable que le Sénat rebascule dans 2 ans et que la Chambre des représentants aussi. Donc déjà, c'est un premier truc. Ensuite, il y a eu beaucoup d'élections locales, puisqu'on le rappelle, c'est un scrutin qui couvre plein d'élections en même temps. Les bulletins font vraiment 2 mètres de long. Enfin, oui. Les gens votent pour beaucoup de choses. Et il y a eu plein de petites avancées, par exemple sur le droit à l'avortement dans 7 États sur 10. Il y a eu des référendums qui sont passés pour le rétablissement du droit à l'avortement dans certains États. Il y a eu, par exemple, l'élection de Sarah McBride dans le Delaware, qui est donc la première femme trans élue au Congrès. Donc voilà, il y a eu des mini-victoires. Et ensuite, il faut se dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup aussi de gens qui ont voté pour Kamala Harris et qui ne sont pas des homophobes en puissance, et même parmi en fait les Trumpistes, parce que par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez, la fameuse, très connue députée de New York, a fait des stories sur Instagram hier pour demander aux gens qui la suivent s'il y a des gens qui ont voté pour elle et pour Trump en même temps. Et il y en a beaucoup. Et donc elle a demandé les raisons pour lesquelles ils ont fait ces choix-là, et beaucoup de gens disent parce que on ne peut plus en fait de l'establishment, donc vraiment des partis, des vieux partis installés. On a envie de gens qui cassent le système, des gens qui sont en rupture, et c'est ce que représente Trump, et c'est aussi ce que représente Alexandria Ocasio-Cortez sur toute autre, sur évidemment
une toute autre ligne, en effet.
D'autres lignes, ouais, voilà.
Alors ce résultat, il a aussi montré, c'est un peu de ça que tu parles, les insuffisances du camp démocrate qui n'a pas vraiment su faire de réelles propositions alternatives à Trump, surtout dans un pays, les États-Unis, qui subissent de plein fouet l'inflation, qui a été une des thématiques très présentes dans cette campagne. Si je résume, tu vas peut-être nuancer ce que je dis, le principal argument de Kamala Harris, c'était de dire, si vous ne votez pas pour moi, ce sera Trump. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle représentait pour les personnes queer aux États-Unis? On sait qu'elles ont majoritairement voté pour elle, à 86% selon un sondage à la sortie des urnes de la NBC, mais est-ce que c'était vraiment un vote de conviction?
C'était clairement un vote contre Trump, parce que on sait que le camp républicain et même Trump en lui-même sont ultra virulentes contre les droits queer et particulièrement les personnes trans, donc c'était vraiment un vote de peur. Après, Kamala Harris, faut se dire que donc elle a été quand même 4 ans vice-présidente de Biden. C'est pas du tout un gouvernement qui a été populaire pour plein de raisons, notamment les raisons économiques, parce qu'il y a une énorme crise ici, mais qu'on a aussi un peu en Europe, sur le logement, sur l'inflation. Enfin voilà, les gens sont vraiment à l'os. Et pour les personnes queer, c'est pas quelqu'un qui s'est particulièrement mobilisé, qui s'est particulièrement démarqué pendant les 4 ans à la vice-présidence. Après, c'est quelqu'un qui a été vraiment très engagé sur la question de l'avortement, qui a été même probablement un des marqueurs qui ont fait que des personnes ont voté pour elle, mais c'est pas suffisant. Et puis, il faut aussi rappeler qu'elle a rejoint la course le 21 juillet. Donc, en faire campagne en un peu plus de 3 mois, c'est tellement dur. C'est un continent, les États-Unis, c'est immense, quoi. C'est comme si quelqu'un faisait campagne sur toute l'Europe en 3 mois.
Enfin, ouais. Et d'ailleurs, avant le retrait de Joe Biden, effectivement, le 21 juillet, Trump était largement donné gagnant. On nous a annoncé finalement une élection serrée et finalement, on arrive à une défaite large de Kamala Harris. Des responsables démocrates ont pris la parole ces derniers jours pour dire que si Kamala Harris avait perdu, c'était aussi parce qu'elle avait trop mené campagne en faveur des personnes trans. On sait qu'il y a une grosse panique morale aux États-Unis autour des personnes trans. Et donc, elle aurait fait ainsi le jeu de l'extrême gauche, c'est en substance ce que disait notamment le représentant démocrate Tom Suozzi au New York Times la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Kamala Harris a donné tant de billes que ça aux personnes trans pendant sa campagne?
Bah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un peu... Chacun essaye de trouver des explications, de dire on a perdu pour ça, on a perdu pour ça. Il y a plein de facteurs, moi, j'ai l'impression. J'ai aussi beaucoup vu, c'est parce qu'elle ne s'est pas positionnée sur Gaza, par exemple. Mmh. C'est un peu... Chacun essaie de trouver... un angle précis pour expliquer la défaite, mais c'est tellement, c'est multifactoriel. Et je pense que quand on regarde vraiment état par état, enfin, vote par vote, c'est qu'on interroge aussi les gens, c'est vraiment multifactoriel. Mais très honnêtement, les gens, la première préoccupation des gens, c'était l'économie. C'est que les gens n'arrivent plus à bouffer. Puis il faut aussi se dire que ce pays, et moi, je le découvre vraiment en habitant là, c'est une dystopie. Enfin, c'est un pays où les gens n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'éducation comme nous on a en France, où il y a les armes à feu, où il y a des crises d'opioïdes qui sont juste énormes. Et je rappelle aussi, hein, les opioïdes, c'est les antidouleurs. C'est parce que les gens n'ont pas d'arrêt maladie, qui sont obligés d'aller bosser et que du coup, ils prennent des antidouleurs pour aller bosser. C'est un problème sur le droit du travail et sur l'accès à la santé qui font que les gens sont obligés de se droguer juste pour survivre aux douleurs physiques. Qu'ils ont et que c'est comme ça qu'ils deviennent accros aux opioïdes. Donc voilà, il y a des espèces de crises majeures que nous, on n'a heureusement pas en France et qu'on ne s'imagine même pas. Et le sujet majeur, c'est ça, quoi. Les gens n'arrivent pas à vivre. Donc vraiment, la question des personnes trans, pour moi, c'est très anecdotique.
Merci beaucoup, Annelie Victoire, pour ce petit panorama de l'état de la communauté queer au lendemain de l'élection de Trump. On continue à garder, bien sûr, un œil sur les États-Unis. D'ailleurs, Chat en parle tout à l'heure aux alentours de 20h40. À bientôt. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Et puis, en bref, le journal 20 minutes nous apprend aujourd'hui que la gauche, rassemblée sous les couleurs du Nouveau Front Populaire, va bientôt déposer une proposition de loi pour déjudiciariser le changement de genre à l'état civil. À cette occasion, l'association Toutes des Femmes, à l'origine d'une pétition qui a rassemblé 40 000 signatures en faveur de cette proposition de loi. Donc l'association Toutes des Femmes a envoyé aux députés un courrier les invitant à, je cite, démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative à leur sexe dans les actes de l'état civil correspond à celui dans lequel elles se présentent et dans lequel elles sont connues, manière de mimer la lourdeur de la procédure de changement de genre à l'état civil actuellement. Allez, dans un instant, on retrouve Maëlle Lecor et Amandine Agic qui signent des textes dans l'ouvrage collectif Gwyn qui vient de paraître aux éditions Point. Mais pour l'instant, eh ben, on était aux États-Unis il y a une minute, on y reste, en tout cas on reste outre-Atlantique avec la chanteuse franco-brésilienne trans Indie qui fait son retour en musique. Restez avec nous. Fata Morgana, extrait du prochain album d'Indie Memoria, à découvrir le 29 novembre prochain, 20h25.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et nous retrouvons Amandine Aguiche et Maëlle Lecorps pour célébrer comme il se doit la sortie de Gwyn aux éditions Point Mal.
Oui, et à l'occasion, j'aimerais qu'on se penche un peu sur le titre, Gwyn. Qu'est-ce que ce terme il implique pour vous personnellement, Amandine et Maëlle d'ailleurs, comme vous voulez?
Moi, Gwyn, je me le suis approprié assez... plus facilement, en tout cas, que le mot lesbienne. Ça peut être un peu paradoxal, mais Gwyn, ça avait ce côté un peu coup de poing, bouclier. Enfin, voilà, c'était hyper fort. Et du coup, à partir du moment où mes convictions féministes avaient infusé dans toute ma vie, au moment où le lesbianisme, c'était pas seulement le fait d'être en couple avec une femme, mais aussi c'était mes potes, c'était aussi mon travail, parce que j'ai longtemps bossé dans des médias LGBT. Enfin, voilà, c'était tellement partout que oui, en fait, le fait d'être Gwyn, c'était hyper cohérent. Avec ma vie, et lesbienne est bizarrement venue un peu plus tard, parce que c'est un peu ce que je raconte aussi dans le texte, c'est que il y avait un truc un peu de légitimité à me dire, mais en fait lesbienne c'est tellement connoté, c'est tellement un parcours assez identifié que j'étais pas sûre de pouvoir coller à ça, et finalement voilà, c'est tout un petit travail, un petit cheminement personnel, un coming in aussi qui m'a fait m'approprier aussi lesbienne. Mais Gwyn, voilà, moi j'ai toujours, enfin voilà, je trouve ce mot génial. Quand on se l'approprie pour soi, ça rend surpuissante, et voilà, je l'aime toujours autant.
Et vous, Amandine?
Moi, ça a été une insulte dans l'enfance, et bon, après, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une prof de philo qui était ex-Gwyn rouge.
Incroyable.
Ça aide à revoir le mot sous une autre lumière, et à partir de la terminale, je pense, du coup, pour moi, c'était vraiment un mot très, très cool.
Et qu'est-ce que ça vous fait, les couvertures des livres des éditions Point, surtout dans cette collection féministe, elles sont très identifiables, elles sont, peut-être les auditoristes se l'imaginent, toutes violettes avec ce texte, avec ce titre, donc Gwyn entouré de orange fluo, c'est assez pétant, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait, surtout à vous, Maëlle Lecorps, qui dirigeait cet ouvrage?
Le fait, quand on a eu pour la première fois la couve sous les yeux, ça fait un effet incroyable. C'est Gwyn au pluriel aussi, je trouve ça compte de ouf quand même. C'est voilà, il y a nos noms derrière, mais c'est Gwyn, c'est aussi raconter que c'est une histoire collective, en fait. Enfin, c'est vraiment le mot est hyper politique, dans le sens aussi où c'est pas juste un truc individuel, c'est le fait d'être ensemble, réunis sous cette bannière là ce mot Gwyn, et voilà, et de le voir comme ça, de voir la vitrine de Violette & Co qui était pleine, alignée tous les exemplaires comme ça il y a quelques jours.
Fête nationale à Violette & Co pour la sortie de Gwyn.
C'est incroyable de les voir. Et du coup, les libraires de Violette nous ont dit que oui, quand ils ont installé les livres, les gens, ça les arrête en fait.
Ah ouais.
Ils passent devant, il y a des gens qui sont ils font un peu la tête, puis il y a des meufs aussi qui passent, qui sont trop contentes, quoi, qui découvrent ça dans leur librairie. Enfin, ouais, je pense que, enfin, nous, ça nous fait un effet incroyable, mais je pense que j'imagine la surprise de voir ce genre de bouquin quand on est Gwyn soi-même, ou peu importe qu'on se définisse lesbienne. Je pense que ça peut choquer. Je pense qu'il y a des gens aussi que ça peut choquer, qui ça peut déplaire, parce que ça reste aussi un mot qui est teinté de violence.
On n'est pas obligé de se réapproprier le stigmate.
Oui, bien sûr, ça c'est un choix. Très clairement, c'est totalement un choix.
Maëlle Lecorps, si je résume ce que raconte votre texte, vous me corrigez si je me trompe, qui s'appelle donc Bancal, on peut dire que c'est l'histoire de la découverte de votre homosexualité, une découverte qui se fait presque sur le tard. Alors, il n'y a pas de but, il n'y a pas de date, de délai imparti, et qui arrive surtout avec une impression d'illégitimité, d'usurpation, c'est le mot que vous employez. C'est un des textes qui t'a le plus touché, toi, Maëlle?
Oui, effectivement, ça a beaucoup résonné avec mon expérience de personne transmasque. Je ne pensais pas que ça allait résonner à cet endroit-là. Mais en particulier, tous ces efforts qui sont racontés d'intégration que moi-même j'ai pu faire pour me conformer au genre féminin dans ma jeunesse, dans le but de savoir marquer des points envers les garçons, quitte à s'effacer complètement. Et finalement, passer sa jeunesse à graviter autour d'une identité qui semble satisfaire tout le monde autour de moi, sauf moi-même. Vous écrivez d'ailleurs, c'est en cochant toutes les cases de la féminité que je serai sûr de ma valeur. D'ailleurs, je pense que le passage autour des magazines pour ados, ça m'a vraiment donné un flashback de moi plus jeune. Est-ce que vous avez senti que vous transitionniez de femme à Gwyn dans votre parcours ?
Oh waouh, c'est une super bonne. Enfin, je trouve la formulation est hyper intéressante. Du coup, ça questionne sur le rapport à la féminité très clairement. quand on est Gwyn, je pense qu'il y a un truc de code, par exemple, vestimentaire, de devoir démontrer qu'on est lesbienne, notamment avec certains codes. Donc, ça veut dire aussi tester, tâtonner des choses à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est hyper intéressant de parler de ce terme-là. Je pense que je vais devoir cogiter longtemps sur cette
vous
question.
Vous nous dites d'ici 21h, mais elle le
mais
corps,
oui, ouais, non, mais bien sûr. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir cette question aussi de glissement en écrivant le texte. Voilà, moi, j'ai d'abord écrit une première version qu'on a ensuite retravaillée avec Marie, avec l'éditrice de Point. Et il y avait cette demande un petit peu de... mais en fait, il faut que Maëlle, tu racontes le moment charnière de à quel moment tu dis que t'es Gwyn, à quel moment tu dis que t'es lesbienne, en fait. Et moi, du coup, j'étais dans une incapacité à dire « Ah oui, c'était ce jour-là ou c'était à ce moment-là. » Parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment une question de glissement. C'est quelque chose de beaucoup plus sur du temps long. Donc, je n'ai pas un truc, une épiphanie comme ça à raconter. Mais justement, je pense que c'est des choses, des jalons au fur et à mesure. Et c'est à la fin, au bout du chemin, qu'on arrive à se rendre compte de plein de choses. Et c'est aussi pour ça que moi, je voulais regarder en arrière pour regarder tous ces petits événements, ces petits trucs mis bout à bout. Qui me constituent Gwyn maintenant. Mais voilà, je trouve que du coup, l'idée de transition, elle correspond bien à cette idée de glissement.
Effectivement, en fait, on constate toute la complexité de votre coming out, aussi parce que vous n'avez pas eu un parcours typique ou cliché gens qui se savent queer dès le berceau. Et c'est une trajectoire qui contraste du coup ce discours assez simpliste. Vous dites « clamer qu'on est born this way à la puissance d'un bouclier qui protège de celles et ceux qui voudraient nous ramener dans le droit chemin, de celles et ceux qui prétendent nous aimer tout en nous poussant vers des thérapies de conversion. » Mais vous le rappelez, tout le monde n'est pas born this way. Finalement, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes plutôt reborn this way?
Wow, l'idée de la renaissance carrément.
Transition puis renaissance.
Non, mais je trouve ça bien de pouvoir parler des différentes trajectoires qu'on peut avoir et qu'en fait elles ont pas, qu'elles cohabitent toutes et qu'elles sont toutes hyper légitimes. C'est vrai que moi je me reconnaissais pas du tout dans ce parcours d'enfance lesbienne, un peu. Tu disais le mot cliché tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a ce truc un peu une enfance lesbienne. On voulait avoir les cheveux courts, on voulait jouer au foot avec les garçons, etc. Voilà, c'est un récit que moi j'ai déjà entendu et que je trouve hyper beau, hyper touchant, mais en fait moi je me reconnaissais pas là-dedans. Du coup, me dire lesbienne, est-ce que j'avais l'impression du coup d'être décalée et que je pouvais pas m'approprier le mot lesbienne? Alors c'est un peu simpliste, hein, je le résume comme ça, mais en tout cas c'est vrai que du coup ça crée un petit peu un frein dans l'appropriation du terme. Et en fait je me dis que moi je suis plus dans une position d'être devenue lesbienne, ce qui est aussi quelque chose, comme on disait, le choix de l'appropriation de l'insulte, c'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde. Et je pense qu'il y a des meufs lesbiennes qui n'apprécieraient pas du tout forcément de parler d'être devenue lesbienne. Je cite justement Dépendre dans le texte parce que c'est quelque chose qu'elle avait dit il y a quelques années. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. C'est vraiment cette idée que c'est une construction un petit peu en millefeuille de plein de choses dans ma vie qui me font aujourd'hui m'approprier ce terme. Mais je peux pas dire que voilà, je suis arrivée du premier jour de ma vie à être lesbienne. C'est quelque chose que je peux pas défendre, en fait, me concernant.
Vous aussi, Amandine Agitch, dans votre texte, vous vous dépeignez presque comme une lesbienne un peu imparfaite, qui ne rentre pas parfaitement dans les clous, mais selon une toute autre modalité. Vous avez grandi dans la banlieue de Clermont-Ferrand, d'un père bosniaque et d'une mère française, dans un milieu populaire. Et dans votre texte, vous racontez que les lesbiennes comme vous, qui n'ont pas lu tout Dorothy Allison pour lui faire un clin d'œil et ne peuvent pas se consacrer à une carrière uniquement artistique faute d'un patrimoine économique suffisant, on ne les voit pas.
On ne les voit pas, et encore en faisant des études d'anglais, j'ai eu accès à ces textes, même parfois avant qu'ils soient connus en France. Il reste que mes camarades qui n'ont pas pu monter à Paris, comme on dit en province, ou qui sont venus pour leurs études et qui ont dû repartir, n'existent pas dans nos représentations. De même qu'on a une absence de la lesbienne tardive, ou en tout cas d'une transition tardive vers la gouinerie, il y a tout un tas de lesbiennes et de Gwyn qu'on voit pas du tout dans nos milieux. Et par nos milieux, je parle plutôt d'un milieu lesbo-queer parisien qui transpire un peu sur d'autres villes.
Oui, et le milieu à l'égard duquel vous avez des mots assez durs, je vais vous citer. De la fin de ma vingtaine à ma petite trentaine, j'ai donc arpenté les lieux parisiens et certains festivals ici ou ailleurs. Je suis allé aux événements des associations. J'ai appris les codes de la politesse dissidente. On ne parle pas de politesse, on dit que c'est de la bienveillance, on dit que c'est politique parce qu'on est vraiment au-dessus de cette valeur bourgeoise qu'est l'étiquette. On ne dira pas qu'une personne qui n'a pas ses codes est mal élevée ou vulgaire. On dira qu'elle commet des micro-agressions, qu'elle n'est pas safe. C'est vrai que ça a une autre gueule, ça, de pouvoir dire qu'on ne fréquente pas une personne parce qu'elle refuse le jeu des tours de pronoms. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que la communauté queer, avec tous ces codes-là, elle produit aussi de l'éviction, de l'exclusion. Et ça, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler.
Oui, alors là me revient une anecdote que m'a racontée un ami transmasque qui était à... Alors, je ne sais pas quel événement précisément, où il y avait une femme trans de plus de 60 ans, donc un trésor national quasiment, qui s'est présentée en disant qu'elle était transsexuelle, et une personne bien plus jeune qu'elle l'a corrigée devant tout le monde en lui disant
quelle audace.
Voilà, qu'on ne disait pas comme ça. Ça demande du courage, et parfois on devrait peut-être se taire.
On a encore beaucoup de choses à dire sur vos deux textes, mais on est extrêmement en retard et il est l'heure d'accueillir Antonella.
C'est moi, je me tais jamais.
Bah non, jamais. Et on adore t'écouter, alors c'est ce qu'on va faire maintenant.
Oui. Eh bien, je voulais vous raconter qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une rupture romantique, un break-up, comme on dit aux États-Unis, pour faire la transition avec chat tout à l'heure. Mais pas n'importe quelle rupture. C'était la fin de ma première relation lesbienne, out aux yeux du monde. Et même si cette histoire est finie, elle a changé ma vie et j'en suis infiniment reconnaissante. Alors c'était une relation magnifique parce que c'était elle, parce que c'était moi bien sûr, mais ça, ça me regarde. Mais vous le savez mieux que quiconque, l'intime et politique, tout ça, tout ça. Et cette relation a complètement révolutionné ma façon d'être au monde. Je vais essayer de vous raconter pourquoi. J'avais déjà été amoureuse d'une fille, et elle de moi, au début de l'adolescence, mais c'était un secret pour tout le monde. Et même pour moi, c'était un secret. J'étais loin d'être prête à vivre cette histoire publiquement. J'ai vécu cette romance sans m'avouer qu'elle en était une. Je l'ai compris bien plus tard. Alors, je ne m'étais pas faite consciente de ce que ça impliquait. Je ne m'étais pas vraiment posée de questions. Cette fois-ci, c'était différent. Au début de mon histoire avec cette fille, cet été, j'étais bien paumée avec un gros syndrome de l'impostrice. Je me sentais pas une vraie queer, j'avais l'impression de naviguer à vue. Je savais pas qui j'étais dans une relation avec une autre femme, je savais pas qui j'étais là-dedans. Dans les relations hétérosexuelles, j'avais mon rôle scripté que je connaissais par cœur. Dans l'idéal, il faudrait éviter de faire ça dans les relations hétérosexuelles. J'ai ouï dire qu'il y a des gens qui arrivent à s'en extraire. Grand bien leur en fasse. Moi, j'y arrivais pas. Je faisais ce que je pensais qu'on attendait de moi. J'étais plus passive qu'active. J'essayais tout le temps de me faire plus petite que ce que j'étais. Et là, dans une relation saphique, j'avais plus de script. D'un coup, je pouvais faire ce que je voulais. Ou du moins, peut-être pour la première fois, me demander ce que je voulais. C'était vertigineux et au début, j'osais pas tout faire. Et puis, peu à peu, si. Peut-être aimais-je prendre les devants, être entreprenante. Peut-être aimais-je me sentir grande, protectrice, dominante. Et peut-être, si je relationne à nouveau avec un homme cis-het un jour, Dieu me regarde, je pourrais continuer de me poser ces questions. Et puis longtemps, j'ai eu besoin de performer l'ultra-féminité. Ne me trouvant pas spécialement belle, je me disais que pour être désirable, il fallait au moins que je me mette en valeur. Pour moi, ça voulait dire une tenue très féminine, un maquillage impeccable, visible, des cheveux avec du volume, mais coiffée et définie, une épilation parfaite. Et mon attitude changeait selon si j'étais apprêtée ou non. J'étais moins avenante, moins souriante avec les autres. Et dans ma dernière relation, je me sentais plus obligée d'être tout le temps cette féminité-là. J'ai commencé à porter des jeans plus larges, des chemises sans les cintrer à la taille, et moins me maquiller, ne pas me maquiller du tout certains jours, à aimer mon visage au naturel, mes yeux même s'ils avaient l'air plus petits, à m'autoriser des attitudes corporelles plus masculines que je m'interdisais avant parce que c'était pas séduisant, pas délicat. J'ai commencé à m'asseoir avec les jambes écartées, à marcher comme j'en avais envie. Et tout ça sans me sentir moins belle et moins sexy. Alors, que le peuple soit rassuré, je vais quand même aller à la Wet samedi avec une tenue qui ferait dire à la Britney Spears de Toxic que je suis peut-être pas obligée de tout dévoiler. Je plaisante, peut-être pas. Vous verrez à la Wet. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir le choix. Et puis dans cette relation, peut-être, pour la première fois, je me suis mise à envisager avec beaucoup plus de réalité, de plausibilité, un futur différent que le mari, les enfants et le chien. Pour la première fois, en fait, pas vraiment. J'imaginais des futurs différents quand j'étais ado et que j'étais amoureuse de cette fille. Je nous imaginais ayant un groupe de rock, je nous dessinais les cheveux emmêlés, des bracelets à clous, des guitares et des micros à la main.
mais j'avais oublié tous ces futurs possibles. Et cet été, je m'en suis souvenue. J'ai recommencé à imaginer d'autres choses. Peut-être j'aurai une femme, des enfants et des chiens. Et puis peut-être que la partie enfant, ce serait pas si simple. Peut-être il faudrait aller en Espagne ou en Belgique, dépenser beaucoup d'argent. Et puis je me suis demandé si j'avais vraiment voulu ces choses-là, ou si je les avais voulues parce que c'était ce qu'on voulait que je veuille. Bon, j'ai pas encore toutes les réponses à ces questions, je suis pas sûre de les avoir un jour. Il y a une partie de moi qui a quand même très envie d'avoir un chien et des enfants. Ou peut-être que je veux rien de tout ça, peut-être que j'ai envie de vieillir dans une grande maison à Montreuil avec mes copines. En tout cas, je me suis autorisée à me poser ces questions pour de vrai et à envisager des futurs différents sans avoir peur. Alors, j'ai une confession à vous faire. Je n'ai pas lu Le génie lesbien d'Alice Coffin. Oh,
mais quoi ?
Allez-y, le lobby, lapidez-moi, traînez-moi par les cheveux en dehors du studio. Je n'ai pas lu Le génie lesbien. Mais je crois que son propos est un peu similaire à ce que je viens de vous dire. Et comme j'ai fait des études de lettres et de journalisme, j'adore citer des trucs, et puis aussi, j'adore parler avec beaucoup d'assurance de sujets que je connais pas. Alors je vais vous citer Alice Coffin. C'est une citation qui capture assez bien ce que je ressens. Elle écrit « Mon sauvetage, ma libération, mon émancipation, mon allégresse et mon extase, je suis lesbienne. » Dans mon cas, vous pouvez remplacer lesbienne par queer, bi, pan ou simplement pas hétéro, je m'en fiche. Dans tous les cas, je suis reconnaissante. Merci. Parce que je suis plus libre qu'avant.
Oui. Merci à toi, Antonella, sous les petits applaudissements dans tout le studio. Merci, on réécoute ta chronique sur radiocampusparis.org à la page du lobby et sur les applications de podcast. Mais Le Gore et Amandine Aguilch, on est extrêmement en retard, on va aller extrêmement vite maintenant. Vous les avez écrites dans quel état d'esprit, vos deux textes, en quelques mots ?
Positif.
Ouais.
Ouais, l'envie d'aller fouiner dans des petits trucs et des petits détails de mon enfance, donc un peu à l'auto-archéologie, un peu comme ça, avec ma petite loupe et je sais pas, mon petit marteau et mon pinceau, quoi.
Ça a l'air très joyeux, raconté comme ça aussi. Alors, je vous pose la question parce qu'au milieu de ces textes, il y en a un qui me marque particulièrement, c'est celui de Noémie Grunenwald, dont j'aurais aimé lire un extrait, mais là, si je commence à faire ça, on finira cette émission à 22h. Noémie Grunenwald, elle parle aussi de ses pensées suicidaires quand elle était jeune, quand elle se découvrait lesbienne, et elle se dit voilà, qu'elle s'imaginait pas vieillir. Il y a quand même beaucoup d'ombre dans ce recueil. Il y a ses pensées suicidaires, il y a aussi la solitude, la dépendance à l'alcool. Cette réalité-là, plus sombre, c'était important aussi de la montrer, selon vous, Maëlle Lecor, qui avait dirigé donc Gwyn.
Bah, comme disait Amandine, on a vraiment laissé chaque auteurice proposer ce qu'elle avait envie. Mais c'est vrai que, autant bien sûr qu'on a besoin de récits positifs, mais effectivement, on ne peut pas occulter certaines dimensions violentes, notamment, et de parler d'addiction, de parler de suicide, de parler de lesbophobie, tout simplement de la lesbophobie sociale qu'on expérimente chacune à des niveaux différents. Donc oui, c'était évident que ça allait être traversé d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, je pense que ce qui est intéressant dans ce poème de Noémie, c'est qu'il y a aussi une fin très très lumineuse que j'aime beaucoup. C'est voilà, on a ce moment où effectivement qui est très sombre, qui est très dur, mais la fin de son poème, moi, elle l'a lu en fait hier à une rencontre qui était organisée par la Belle Gwyn et Mille et Une Queer, et j'avoue, je devais passer juste derrière pour lire mon texte, et j'ai eu un petit peu la gorge serrée, mais justement sur la fin de ce texte qui était une espèce de bouffée de lumière et d'amour, et qui m'avait beaucoup émue de l'entendre à nouveau.
Si on essaye de faire aussi d'autres ponts dans vos textes, il y a un objet qui revient régulièrement, c'est le journal intime. « Suis-je homo ?» demande Noenger dans les pages de son journal. Marcia Burnier tente aussi de l'écrire dans son journal sans jamais y arriver. Vous, Amandine Aguilch et Maëlle Lecor, vous vous souvenez d'avoir écrit dans votre journal intime sur ces questions qui vous traversaient à un moment ?
Alors, première fois de ma vie que je parle de ça, moi, c'était pas mon journal intime, c'était tous les mots de passe pour mes boîtes mail ou quoi.
C'était « suis-je lesbienne ?»
Non, je suis lesbienne.
Ah, waouh !
Incroyable.
Très malin.
Pour
très
l'écrire malin. Régulièrement, en fait, parce que j'avais pas d'autre endroit où être out.
Que dans vos mots de passe. C'est beau. Et vous, Maëlle Lecor, bah, c'était aussi cryptique.
Si je devais rejeter un œil dans mes vieux journaux intimes, je pense que c'est désespérément hétéro et pas... Mais après, ça vaudrait le coup de regarder s'il n'y a pas des petites choses un peu à déceler, mais j'y crois pas trop.
Et en même temps, votre texte, il est là aussi pour se réconcilier aussi,
je
pense,
avec
ça. Ah oui,
quand même, j'ai totalement fait la paix avec ça. J'assume totalement mon parcours d'ex-hétérosexuel.
Amandine Agitch, on apprend dans les dernières pages de Gwyn que vous vous apprêtez à publier un livre en 2025 aux éditions Lapin, où on trouve aussi d'autres plumes queer. Ça s'appelle « Loup sauve presque le monde », c'est ça ? Je l'ai écrit, mais je n'arrive pas à le retrouver dans ma feuille.
Oui, c'est ça. C'est le titre.
Vous nous en dites quelques mots ?
Oui, donc Loup est un enfant au genre indéterminé qui vit ce qui m'est arrivé moi quand j'étais enfant. À savoir que j'avais entendu au journal télé qu'on coupait je sais plus combien de terrains de foot dans la forêt amazonienne. Mmh. Et déjà, je me demandais pourquoi il y avait autant de monde pour jouer au foot dans la forêt amazonienne. Et après, alors j'avais la vague idée, honnêtement, je savais pas encore lire, donc j'étais petite, que les arbres fabriquaient l'air et que si on coupait trop d'arbres, on n'allait plus avoir d'air.
Wow.
Donc j'étais très angoissée, je me souviens vraiment de nuits d'insomnie à ce sujet-là, une enfance joyeuse.
Ouais. Mais en même temps, des mots de passe très lesbiens.
C'était plus tard. Et donc j'avais trouvé une solution pour sauver presque le monde, et j'avais gonflé des ballons que j'avais cachés sous mon lit. Sauf qu'au bout d'un certain temps, les ballons se flétrissent un peu, et donc c'est les aventures de comment on peut conserver de l'air quand on est un enfant, pour pas mourir.
Et on découvre ça aux éditions Lapin en 2025.
Au mois de juin.
Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, Maëlle Lecor et Amandine Agitch. Gwyn, ça vient de paraître aux éditions Point. Et je précise qu'à partir de ce jeudi, vous commencez une petite tournée pour aller présenter Gwyn en librairie, Angoulême le 14, Marseille le 15 et le 16, au Buisson dans la Creuse le 23, Lille le 29.
Parfait.
Où vous serez d'ailleurs à Lille, Amandine Agitch, vous avez un peu hâte de rencontrer votre public.
Oui, et surtout en dehors du milieu lesbo-queer parisien, d'aller voir les... personne à qui j'espère parler le plus directement dans mon texte.
Absolument, et lisez aussi le texte d'Amandine Agitch.
Enfin, l'accueil était super dans le milieu lesbo-queer parisien.
Mais voilà, il faut un petit peu en sortir aussi. Allez, en tout cas, nous, on était très heureux de vous avoir parmi nous quelques jours après la sortie de ce livre. Merci beaucoup, restez avec nous, car tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Chat. Et alors, Chat, tu nous as habitués au conte de Per Castaigne, mais genre, pas de Per Castaigne ce soir.
Mais non, j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'en voyant les résultats des élections états-uniennes, c'est mon cerveau de prof d'anglais qui a pris le contrôle.
Oula.
Oui, je sais. Alors, à deux doigts de transformer cette chronique en épisode du bus magique, mais j'arrive pas à chanter le générique, donc je laisse faire votre imagination. Hein ? N'empêche que, à presque 3 ans après avoir quitté le service public, ma première pensée, ça a été « Comment on en parle aux gamins en classe demain ?» Comment leur faire 3 séquences sur la montée du fascisme dans les années 30, puis leur expliquer que c'est possible d'être gouverné par un mec comme Trump en 2024, et quand même leur dire qu'on peut changer la société malgré tout ? Franchement, bonjour le numéro d'équilibriste, les collègues, force et respect. Le premier constat, c'est que cette élection, c'est la victoire des masculinistes. Les gars, ils verraient pas un clito, même s'il brille dans la nuit. Mais t'inquiète, qui ça, vous trouvez la fente. Hein. Les républicains, be like, oh yeah, remplis-moi l'urne, baby. Désolé, je suis en pleine ovulation, j'ai chaud.
C'est super.
Après, j'avoue, j'étais pas non plus méga convaincue par Kamala Harris. Moi, la gauche centriste, c'est pas ce qui me fait mouiller devant derrière. Hein. Et puis, de toute façon, j'ai toujours été Team Shane. Je comprends pas ce que vous lui trouvez à votre porteur en vrai. Bon, plus sérieusement, la victoire de Trump, ça veut dire qu'il y a plus de machos qui sont allés voter que de féministes. Et ça, c'est grave. D'accord ?
Oui.
Elles sont passées où, les Gwyn Vénères des States ? Il est où le féministe de MeToo, là ? Et de Time's Up ? Même Dorothy Ellison, elle a rendu le tablier. Et franchement, on la comprend. Et là, je me permets une petite pensée émue pour toutes les butches qui sont en deuil. Parce que c'était la femme qui parlait le mieux de nous.
Oh, je te sens très très émue. Est-ce que tu veux un mouchoir, Chat ?
Non, t'es un sucre, Colin, ça va aller. J'ai une réputation à tenir.
Ah bah oui.
Voilà. Mais un truc qui me retourne les gonades, c'est que, en fait, il y a plein de gens qui sont pas allés voter parce qu'il y avait la queue au bureau de vote. Alors bon, moi je comprends. Oui. Moi aussi, j'ai déjà hésité à la poste quand tu mets une heure à récupérer un colis. Mais on s'accroche. Il y a des queues importantes à se taper, merde. Bon, hein. Et puis bon, le colis, c'était mes nouvelles Buffalo, indispensables pour compléter mon look antifa pour les prochaines manifs. Ouais, répugnation is the new runway, babe. Collection auto-hiver, prépare ton sérum, fille. Parce que oui, les élections aux États-Unis, c'est pas juste un sujet de cours pour prof d'anglais fashionista qui suit l'actu. C'est... c'est surtout un preview de ce qui nous attend, voire un miroir de ce qu'on a déjà ici, au pays du coq au vin et des agresseurs cultivés. Chez nous, le gouvernement Barnier, c'était aussi la victoire des masculins, mais version Sugar Daddy. Sans la thune, par contre. C'est le mouvement Tradwife, mais sans la bonne odeur de pain grillé le matin. Non, nous, on a juste des relents de fascisme qui montent des caniveaux, a.k.a. le QG du RN. Hein. Et même les rats, ils sont plus tranquilles parmi chez eux, parmi les ordures. Wesh. En vrai, Trump, c'est juste le gros bouton qui perce enfin sur ta gueule après 2 semaines à avoir mal. La montée d'extrême droite et des mouvements masculinistes, on la voit arriver depuis un moment. Gros indice, la transphobie d'État, qui ne recule pas. C'est devenu une arme de campagne aux États-Unis. En France, c'est un épouvantail pour diviser les luttes de gauche tout en parlant de protéger les enfants. Mais quand il faut s'occuper des 3 enfants par classe en moyenne qui vivent de l'inceste, là, il n'y a plus personne. Hein. Bon. Et au milieu de tout ça, il y a des fachos qui se sont poussés des ailes. Pour les camarades qui se pensaient pas concernés, l'homophobie, c'est ce qui vient juste après. Hein. Et on l'a vu la semaine dernière avec pas moins de 5 agressions, dont une à Morteau, vers chez moi, franchement j'ai le seum. Alors parler des élections en classe, ce sera aussi l'occasion de faire le point sur ce qui se passe politiquement. Collègues profs, personnes éducatives de tout poil, on n'a plus le temps de jouer les bons élèves là. Hein. Il faut préparer les prochaines élections, préparer les gamins à reconnaître les mots du RN dans les programmes scolaires et dans les discours sur les réseaux. Assumons d'être queer. Assumons d'être de gauche, de vouloir un monde plus doux. Un monde où les fachos ne peuvent plus détourner les mots pour se faire passer pour des victimes parce que personne ne sera dupe. Alors demain, quand on parle des États-Unis et de Trump, on parle aussi de la France et de nos luttes. Demain, on est tous des profs castagnes dans le bus magique du wokisme.
En voiture tout le monde.
En voiture avec chat, merci beaucoup. Chat alias Père Castagne de temps en temps, merci. Chronique à réécouter sur radiocampusparis.org à la page du lobby et sur les applications de podcast 20h50.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah. Et c'est l'heure de l'agenda avec Eléa, notre nouvelle spécialiste cinéma du lobby. Salut Eléa.
Salut Colin, bonjour.
Et ce soir on parle du festival Chéri Chéri.
Tout à fait. J'ai le plaisir de vous parler d'un festival emblématique de la culture LGBTQIA+ en France et surtout de recevoir à nos côtés Grégory Thiac, le directeur artistique du festival. Il vient nous présenter la 30e édition de Chéri Chéri qui se tiendra du 15 au 26 novembre 2024. Donc depuis maintenant 3 décennies, ce festival célèbre l'engagement, la diversité et la créativité dans le cinéma LGBTQIA+. Cette année, les films seront projetés dans plusieurs salles à Paris, dont le MK de Beaubourg, le MK de Quai de Seine et le MK de Bibliothèque, ainsi que d'autres séances spéciales hors les murs, dans les lieux phares de la culture queer, comme le Tango, la Flèche d'Or et le Rosa Bonheur Butte-Chaumont, où on pourra retrouver des moments de débat, des tables rondes, avec des réalisateuristes, mais aussi des moments de fête, comme des drag shows pour l'ouverture du festival. Aussi, surtout, pour célébrer les identités queer. Pour les cinéphiles parmi vous, ne tardez pas à réserver vos places, car le festival est souvent complet sur certaines projections, notamment pour des films très attendus comme Gofish, dont vous pourriez peut-être nous dire quelques mots.
Oui, tout à fait. En fait, Gofish, c'est un film qui avait été présenté lors de la première édition de Chéri Chéri, donc en 1994. Donc un film américain réalisé par Ross Troche qui fait vraiment figure de film pionnier du cinéma lesbien. Aujourd'hui, il est considéré vraiment comme étant au panthéon du nouveau cinéma queer. Et c'était un film en fait qui allait complètement à rebours de toutes ces dramaturgies à base de coming out douloureux, d'ostracisation. Et là, on avait vraiment un aperçu très 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 authentique hein, de la vie d'un groupe de lesbiennes à Chicago. Et donc, c'est un film qui a porté un grand bol d'air frais. Et donc, Ross Troche reviendra 30 ans plus tard pour présenter à nouveau ce film en version restaurée. Et non seulement elle le présentera, mais elle animera également une table ronde, donc lundi prochain, au Tango, pour parler de l'évolution du cinéma lesbien depuis ces 30 dernières années. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Et aussi pour partager sa carrière.
Tout à fait. Pour revenir sur tous les films qu'elle a réalisés depuis, parce que c'est quand même une réalisatrice très très chevronnée et qui a fait beaucoup de bons films. Oui.
Ok, très bien. Et est-ce que donc sur votre communication du festival, vous insistez sur le fait que ce festival est LGBTQIA+++, avec 3 petits plus. Est-ce que cela sous-entend une idée forte d'inclusivité? Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela signifie pour vous?
Oui, bien entendu, on veille vraiment à conjuguer de la manière la plus équilibrée possible hein, toutes les lettres qui composent le cycle, donc LGBTQIA+++. Et vous aurez remarqué que cette année, on a rajouté une lettre, hein, donc le A, puisqu'on a cette année un film magnifique, un film lituanien qui traite de la sexualité, c'est-à-dire c'est un terme qui désigne en fait des personnes qui n'éprouvent que peu ou pas d'attirance à l'égard d'autres personnes. Et ce sujet-là est traité de manière absolument magnifique, très très sensible. C'est un film qui a été primé dans tous les festivals où il a été primé, présenté, je veux dire, et donc il sera présenté en compétition. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un film lituanien qui a vraiment le cinéma lituanien qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Il n'arrête pas de récolter des prix partout. Il a fait une véritable razzia au dernier festival de Locarno. Et il se trouve que cette année, il y aura un focus consacré au cinéma queer lituanien avec une mini rétrospective, dont le nouveau film de Romas Zabarauskas, qui est l'enfant terrible du cinéma lituanien, et qui présentera son nouveau film qui s'appelle Te revoir, qui est le portrait de seniors lituaniens exilés aux États-Unis. Voilà, c'est un très très beau film aussi.
Et peut-être une question un peu plus technique pour enchaîner. Vous proposez plus de 70 longs métrages cette année. Quels ont été les principaux critères de sélection ?
Pour moi, le critère principal, c'est vraiment la prise de risque. Hein. C'est l'audace, c'est l'identité affirmée du cinéaste. Il faut vraiment qu'il y ait un univers qui soit fort. Voilà, ça c'est le critère principal. Alors bien entendu, il y a d'autres critères. Hein. On veille vraiment à ce que toutes les zones géographiques soient représentées. En l'occurrence, cette année, on a plus de 40 nationalités représentées, dont même des films de Tanzanie, des films d'Inde, d'Iran, de Chine, de Hong Kong. Donc voilà, on est très content de pouvoir représenter toute la richesse, la profusion artistique émanant de la production LGBT.
D'accord, très bien. Et concernant donc Chéri Chéri, avec sa large sélection, semble être un festival qui tend à montrer des vies queer du reste du monde, enfin de l'ensemble du monde. Y a-t-il des thématiques nouvelles qui sont abordées dans les films sélectionnés ?
Alors, je dirais qu'il y a quelques années, c'est vrai que beaucoup de films LGBT tournaient un petit peu autour de cette thématique justement du coming out, souvent envisagée de manière douloureuse. Là, depuis quelques années, il y a une diversification considérable au niveau des thématiques, il y a un véritable foisonnement. Donc cette année, oui, il y a quelques thématiques qui se détachent, notamment la thématique du travail du sexe, hein, qui est pas mal abordée cette année à travers plus de 10 longs métrages, ce qui est assez considérable. Et ça donne lieu vraiment à des films vraiment très très beaux, comme Baby, par exemple, de Marcelo Caetano, comme Shameless, aussi un film indien qui a été primé au dernier festival de Cannes. Donc voilà, il y a d'autres thématiques aussi hein, qui transparaissent, notamment la nécessité de trouver des familles queer alternatives hein, au schéma hétéronormé. Voilà, il y a aussi la thématique des expressions sexuelles dissidentes aussi qui transparaît pas mal également cette année, notamment à travers un film qui est classé X qui s'appelle Amusement Park, qui est un film expérimental sur une nuit de cruising gay au Brésil et qui est vraiment un film assez époustouflant. Voilà ce que je pourrais dire.
Très bien, merci. Et ben on a hâte
merci
de voir tout
vous.
Ça.
Antonella, tu avais une mini-question peut-être ?
Oui, ben justement, je sais que le soir, il y a les cours érotiques. Pourquoi est-ce qu'on continue de montrer ça alors qu'on a Internet ? Enfin, ça fait imaginaire très 80s, 90s, mais pourquoi c'est important de continuer de faire ça ?
Alors pour moi, tous ces films qui sont présentés à Chéri Chéri, qui sont interdits moins de 18 ans, ces films-là ne relèvent absolument pas du genre pornographique, absolument pas, ni même érotique. Ce sont juste des films qui présentent des scènes de sexe non simulées. Mais cela ne relève absolument pas de l'excitation que l'on peut trouver sur les sites porno sur
c'est
Internet.
Esthétique, quoi,
ça n'a rien à voir.
Dire.
C'est une approche purement artistique, expérimentale. En l'occurrence, il y en a plusieurs hein, qui sont présentés. Le film de Vroslav Rus aussi, Visitor, qui est aussi interdit moins de 18 ans, puisqu'il y a aussi des scènes de sexe en simulé. Et ce sont des démarches artistiques extrêmement fortes et même politiques. En l'occurrence, Romy Alizé, qui a réalisé les courts-métrages qui seront présentés dimanche soir, donc dans le cadre de ce programme Lesbo Queer, est une réalisatrice extrêmement engagée. C'est une travailleuse du sexe, elle a plusieurs casquettes, elle a un propos absolument passionnant. Et nous, à Chéri Chéri, on n'est pas là pour censurer les artistes, bien au contraire. On est vraiment là pour les encourager à prendre des risques, et à ne surtout pas réaliser des films calibrés, lisses, qui ne présentent pas un grand intérêt.
Merci voilà. Beaucoup Grégory Tillac. Chéri Chéri, la 30e édition du 30e anniversaire, c'est du 15 au 26 novembre dans les cinémas MK2. Merci beaucoup. Je crois que tu avais une toute petite recommandation d'ailleurs de choses à voir, Antonella.
Oui, il faut aller voir Reyes de Lola Arias. C'est un film extraordinaire d'une réalisatrice argentine tournée avec des personnes qui ont fait de la prison et qui rejouent les scènes de leur vie en chanson. C'est formidable, allez le voir.
Voilà, bah merci beaucoup Antonella, merci Eléa et merci à toute l'équipe du Lobby. Dans un instant, restez sur Radio Campus Paris puisqu'on vous emmène au pays des rêves avec Elodie. Salut Elodie.
Salut. Ouais, ce soir on va parler de la démocratisation du milieu électro et principalement de la techno et des nouveaux publics qui arrivent dans nos soirées. Donc restez connectés parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a le fond électronique qui sera avec nous, donc ça va être super.
Eh bah oui, moi je serai vous, je resterai sur le 93.9 FM. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous vendredi, on parlera de pop culture et de cinéma encore. Campus.